Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Question ce soir, malgré les critiques sur la stratégie du gouvernement français face à la crise sanitaire, faut-il rester optimiste et confiant? Nous en parlons dans un instant, mais d'abord l'Algérie.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Hassène Iresh, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes militant des droits de l'homme, chargé de cours de langue amazigh parlée par les berbères algériens à l'Université de Paris 8 et également président de l'association Atou Kabylie Europe. Le ministère algérien de la Défense a indiqué avoir démantelé une cellule de militants du MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, qui avait des projets d'attentat contre les marches du mouvement de protestation populaire du Irak. Le MAC a aussitôt démenti. Les accusations du gouvernement sont-elles fondées ou s'agirait-il d'une tentative de diviser deux mouvements contestataires qui dérangent ?
Le pouvoir algérien, qui est un pouvoir militaire, a l'habitude depuis 1962 d'inventer des scénarios de ce genre pour essayer de discréditer un mouvement, un groupe, de faire de la diversion et éventuellement monter les Algériens les uns contre les autres. Je rappelle que cette méthode a été, par exemple, utilisée en 1980, accusant un autre petit parti d'avoir préparé des attentats. Donc, en fait, c'est un scénario absolument classique, paranoïaque, du ministère de la Défense.
Gouvernement algérien dit s'appuyer sur des aveux d'un ancien membre du MAC qui a admis qu'il y avait effectivement un projet d'attentat contre le Irak.
Il se trouve que ce jeune est connu dans son village en Kabylie, hein, qui a eu des articles justement des gens qui le connaissent et qui l'est présenté en fait comme un repris de justice. Malheureusement, c'est arrivé à plusieurs reprises que ce genre de personnes soient utilisées par les services algériens et leur font dire absolument ce qu'ils veulent à la télévision.
Mais ce suspect est-il membre ou non du MAC ?
Jamais. Jamais.
Dans quel contexte interviennent ces accusations ?
C'est un contexte d'affaiblissement du pouvoir, de lutte de clans et d'accélération en fait, du mouvement Irak aujourd'hui qui conteste la légitimité du pouvoir et qui demande la refondation de l'État pour instaurer à la fois un État droit, instaurer de nouvelles institutions, instaurer tout simplement un système démocratique décentralisé. Donc c'est dans ce contexte d'accélération, de détermination du peuple algérien, malgré le Ramadan, malgré les difficultés, malgré une grande répression, c'est tout à fait, le réflexe d'un pouvoir aux abois, d'un pouvoir qui panique, qui ne sait pas comment faire, qui ne trouve pas de solution devant cette mobilisation populaire.
Quel est le poids réel du MAC aujourd'hui et ce mouvement indépendantiste représente-t-il réellement une menace majeure pour le pouvoir algérien ?
Je connais ses fondateurs, je connais beaucoup de ses militants. C'est un micro-parti, hein. Il ne faut pas donner malheureusement ou heureusement l'importance qu'il n'a pas. Le MAC est un tout petit parti avec quelques centaines de militants sur le terrain et ici dans l'immigration. Cela dit, il y a une idée qui est largement maintenant répandue en Kabylie, c'est l'idée d'autonomie de la Kabylie, c'est-à-dire d'un statut particulier à la Kabylie, avec soit un État régional de type Espagne ou Canada, ou un État fédéral. C'est une idée qui, aujourd'hui, est retenue par beaucoup de hiérarchistes, par beaucoup de manifestants, mais l'indépendance que réclame le MAC est, par contre, de mon point de vue, beaucoup moins, on va dire, partagé par les Algériens et par les Kabyles en particulier. Il y a d'ailleurs trois partis indépendantistes kabyles qui sont issus de scissions du MAC, mais il ne représente pas une majorité de la population de Kabylie, pas du tout, loin de là.
Le président du MAC, Ferhat Mehenni, a déclaré que le MAC est un mouvement pacifique, mais dans sa stratégie de lutte pour l'autonomie pour certains, l'indépendance pour d'autres, ce mouvement n'a-t-il pas eu ou n'aura-t-il pas à un moment donné la tentation d'utiliser la lutte armée?
Non, c'est complètement un mensonge, c'est complètement infondé. Ferhat Mehenni, qui est, on va dire, le leader de ce mouvement, de ce groupe, a toujours milité pour les droits de l'homme, pour une lutte pacifique. La seule arme qu'il a utilisée jusque-là, c'est sa guitare. Je ne le vois pas, vraiment pas, du tout changer de registre.
Peut-être pas lui, mais au sein du MAC, est-ce que tout le monde partage cette stratégie de lutte pacifique?
Absolument. Et il n'y a aucune personnalité du MAC ou même de militants de base qui aurait émergé et qui aurait appelé à utiliser la violence ou à prendre les armes. Ça, c'est complètement farfelu.
Docteur Hassène Iresh, merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité.
Chargé de cours de langue amazigh à l'Université Paris 8 et président de l'association Atouf Kabylie Europe.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, débat ce soir dans votre émission sur les critiques concernant la stratégie du gouvernement français pour enrayer la crise sanitaire. Faut-il malgré tout rester optimiste et confiant? Nous en débattons ce soir avec trois invités. Docteur Massamba Sassoum Diop, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, médecin urgentiste et président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal. Vous êtes également médecin urgentiste au SAMU, c'est le service d'aide médicale d'urgence de l'Essonne en région parisienne. Merci également à vous d'être avec nous, Abel Mboyi. Bonsoir.
Bonsoir Liliane et bonsoir à tous.
Président de la plateforme citoyenne Force Républicaine, la plateforme de réflexion et action citoyenne. Vous êtes également, monsieur Mboyi, auteur du livre « La jeunesse des quartiers face aux défis du patriotisme et de la cohésion sociale ». Bienvenue à vous, Rudy Lenné.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous, chef. Vous êtes chef et entrepreneur, cofondateur de la New Soul Food. C'est le premier food truck et maquis afropéen ici en France. Je vais commencer avec vous, docteur Massamba Diop. Je mentionnais en début d'émission cette enquête pour BFM TV qui a été réalisée il y a un mois, dans laquelle 56% des Français estimaient que la crise sanitaire est mal gérée par le gouvernement. Ils évoquaient en cela des décisions tardives, selon eux. Les sondés parlaient aussi de cette mauvaise gestion des stocks de masques. Ça, c'était au début de la pandémie. Est-ce que depuis, le gouvernement français, d'après vous, a tiré les leçons et réajusté sa stratégie de lutte contre la COVID-19?
Oui, alors, moi, ce que je dirais, vous savez, je pense qu'il faut être d'une part modeste et c'est loin d'être facile. Les masques, c'est évident, là, il y a un problème. On ne va pas discuter. Je pense qu'il y avait une pénurie, enfin, c'est même sûr. Et du coup, par contre, c'était la gestion de cette pénurie, d'expliquer si on peut y arriver à la population en leur disant bah, « on n'a pas de masques pour l'instant, fabriquez des masques vous-même, essayez de voir comment vous pouvez faire ». Et nous, on va voir comment on peut gérer cette pénurie de masques. Ça, sur les masques, il n'y a pas de discussion. Après, par la suite, je peux vous dire que c'est le virus qui mène les États, les pays, les gouvernements un petit peu par le bout du nez. Et de dire, bah, finalement, allez, on doit tout fermer, comme ils le font en Asie, ça a des conséquences qui sont extrêmement importantes, complexes, et qui sont loin d'être évidentes. Vous dites, on fait comme le Brésil, on laisse tout ouvert. Vous avez vu, c'est loin d'être facile, même si actuellement c'est en train de redescendre, et même si la mortalité du Brésil par million d'habitants est inférieure aux États-Unis, à l'Angleterre, à l'Italie, à beaucoup de pays européens. Mais c'est pas du tout non plus évident. Et puis d'avoir une attitude intermédiaire comme a eu celle du gouvernement aujourd'hui français, ça peut bien sûr discuter. Les gens vont dire oui, il faut être ferme, il faut prendre une décision extrêmement claire. Et franchement, quand on voit, nous, côté médical, la situation et ce que fait le virus et comment vous avez vu l'apparition des variants maintenant. Donc vous pensez que c'est à peu près réglé et on reprend les choses, pas forcément à zéro, mais où il faut vraiment...
Excusez-moi, docteur Diop, mais ces critiques, ces variants arrivent seulement maintenant et les critiques, elles, datent de beaucoup plus longtemps.
Oui, mais parce qu'en fait, est-ce que vous avez remarqué une chose ? Avant, on disait, c'est les surfaces. Il faut faire attention, les surfaces, les aliments, on fait attention à tout ça. Et puis finalement, au bout quasiment d'un an, on s'est aperçu que quasiment 95% quasiment de la transmission, si ce n'est plus, c'est tout simplement par les microparticules de moins de 5 microns. Donc tout ce qui est aérosolisation. Donc en fait, vous pouvez mener une politique qui va dans un sens et vous apercevez que finalement, on peut tout à fait se promener dehors. On peut, au contraire même, c'est recommandé. Je dirais même quelquefois, je fais exprès, je vais à l'extrême. Je dis, écoutez, moi je prescrirais que l'obligation à l'ensemble des gens de sortir de 18h à 23h, l'heure à laquelle on se retrouve tous ensemble à discuter dans les familles et tout, normalement pas avec les amis puisque normalement c'est limité, mais en tout cas de finalement être plutôt à l'extérieur parce que c'est l'heure où on a la transmission. En dehors, je ne parle pas des écoles, je ne parle pas des établissements. Et vous voyez que c'est si loin d'être facile. Et je n'ai pas, on n'a pas envie d'être à la place des décideurs. Et c'est pour ça que vous avez autant d'avis différents. Autant de médecins que vous interviewez, autant d'avis différents. Autant de politiques, autant d'avis différents.
Merci,
donc je pense qu'il faut savoir être un petit peu indulgent quand même.
D'accord. Peut-être indulgence, mais les conséquences sont là avec cette pandémie. Vous-même, vous l'avez reconnu, qui progresse avec les variants qui compliquent les choses. Ce que je retiendrai de votre job, vous dites que oui, il y a eu des dysfonctionnements au niveau des masques. Je vais voir avec vous, M. Mbouyi. Est-ce que c'est le seul aspect, c'est la seule critique qu'on peut faire aujourd'hui, puisqu'on a aussi évoqué la question des respirateurs?
Bien entendu, mais de toute façon, il y a deux points de vue, parce que vous êtes parti d'un sondage, et ce sondage, il a été mené auprès de la population. Et là, il est important de prendre en compte aussi ce que dit le peuple, parce qu'il y a l'œil du scientifique qui a une maîtrise plus importante du sujet, mais comme ça a été dit, on a vu sur les différents plateaux télé et radio que les scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux. Et aujourd'hui, toujours, il y a toujours cette cicatrice.
On le verra d'ailleurs tout à l'heure en parlant un peu du vaccin.
Mais bien entendu, et il y a toujours ces cicatrices béantes, comme vous l'avez fait remarquer, Liliane, l'aspect du masque, des tests et les problèmes de livraison par rapport au vaccin. Et on peut rajouter aussi une autre chose, c'est les jeux de mots politiques. Lorsque l'on parle d'objectifs de millions de Français vaccinés, normalement, lorsqu'une personne est vaccinée, je ne suis pas scientifique, mais je réfléchis bêtement, c'est-à-dire que je suis vacciné, j'ai fini le traitement vaccinal et je suis en mesure, mon corps est en mesure de pouvoir affronter le virus. Aujourd'hui, on nous fait la différence entre 14 millions de Français qui ont reçu la première dose, moins de 6 millions qui ont reçu la deuxième dose, mais qui est à considérer comme étant réellement vacciné ?
Immunisé peut-être ou pas ?
Mais oui, le chiffre de 14 millions que l'on aime mettre en avant, ou faut-il mettre plutôt le chiffre...
Pardonnez-moi, M. Mbouyi, de vous interrompre. On va parler tout à l'heure du vaccin. Je souhaite qu'on s'attarde sur les principaux reproches qui ont été relevés par les Français, les masques, les respirateurs, et aussi l'incohérence observée dans certaines mesures.
Bien entendu, mais en tout cas, je veux mesurer le propos en parlant d'impression d'incohérence, parce qu'effectivement, il y a des dates de sortie de confinement ou autres qui sont annoncées, et aujourd'hui, on ne sait pas en réalité jusqu'à quand ça va durer. Donc, toutes ces plaies béantes, les masques, les tests, les respirateurs, les vaccins, les livraisons, pas livraisons, la défiance aussi que l'on a vis-à-vis de l'Union européenne et le fait que l'on a pu voir que la France n'était pas maître même de sa propre industrie, parce que toutes ces plaies, que ce soit le vaccin et les tests et autres, et les masques, on voit que c'est la cause d'une désindustrialisation qui a été massive en France, qui fait qu'aujourd'hui, on dépend et de l'Union européenne et de la Chine ou autre. Donc en réalité, les Français voient que la France, en tant qu'État, en tant que puissance mondiale, n'est pas maître de son destin.
Et vous pensez que cela a pu peut-être jouer dans la stratégie du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement devait composer avec des éléments sur lesquels il n'a pas forcément la maîtrise, d'où cette stratégie un peu confuse ?
Ben, le gouvernement n'a pas la maîtrise, mais ne le reconnaît pas assez. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît qu'effectivement, c'est une situation inédite qui, effectivement, apporte beaucoup de surprises. Mais on aurait aimé, de la part de la parole du politique, un peu plus d'humilité, un peu plus de clarté. Parce que reproche aussi le peuple par rapport aux politiques ? Un moment, devant toutes ces dissensions entre les différents scientifiques, on avait l'impression que c'était le scientifique qui donnait des ordres au président de la République et que celui-ci ne faisait que les répéter. Donc on ne savait plus même quel était l'équilibre entre l'autorité politique et l'autorité scientifique.
Et maintenant, aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse. C'est le politique qui est en train de prendre, de reprendre la main sur le scientifique avec le déconfinement qui est annoncé.
Ça se passe au grand désarroi du scientifique, justement.
Merci. Monsieur Rudy Lenné, est-ce que vous, à votre niveau, en tant que chef d'entreprise, vous avez toujours vu clair dans la stratégie du gouvernement ces mesures? Est-ce que vous les avez toujours comprises et acceptées?
Alors, accepter, on n'a pas eu le choix. Les comprendre, c'est plus difficile à notre niveau. Maintenant, à aucun moment, on s'imaginait ouvrir avant cet été. Ça, c'était sûr et certain. Parce que les premiers qu'on a pointé du doigt étaient la restauration, en disant que c'était déni pour Covid. Donc, partant de ce principe-là, on savait que ça serait très compliqué d'ouvrir avant qu'il y ait une vraie masse de personnes qui soient vaccinées. Donc, pour nous, c'était logique qu'on n'allait jamais ouvrir avant cet été.
Voilà, vous n'allez pas ouvrir cet été, mais le président promet qu'il y aura peut-être quelque chose à faire avec les restaurants, tout au moins pour ceux qui ont des terrasses. Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on insiste encore sur ces mesures qui ont été tant décriées, Monsieur Lenné. Il y a aussi cet aspect des fêtes clandestines, des dîners secrets clandestins dont la gestion a été parfois critiquée. On a vu par exemple dans le cas de Marseille, où il y a eu une grosse fête organisée, où policiers et mairies se sont rejetés la responsabilité. Est-ce que pour vous, c'est là aussi une faiblesse de la stratégie gouvernementale ?
Disons que sur les choses, on sait tous, en tout cas à Paris, que certains restaurateurs ont un réseau qui leur permet de continuer à exercer. Et ça, vous ne pourrez jamais rien y faire, parce que s'il faut frapper à toutes les portes de restaurants pour voir s'il y a du monde ou pas, c'est juste pas possible. Donc pour nous, ce qu'on voit dans les médias, c'est juste une parcelle de ce qui doit se faire au quotidien dans toutes les villes de France, je pense. Donc ça, c'est juste un ras-le-bol de tous ceux qui sont dans la restauration, qui ne comprennent pas ces mesures qui sont surtout pas clair, parce qu'on n'a pas de réelle date d'ouverture. On parle des terrasses, mais là, on vient de dire que c'est par région. Donc, ça veut dire que même potentiellement à Paris, on
des confinements territoriaux.
Voilà. Donc, du coup, en fait, au fur et à mesure, il y a toujours quelque chose qui font qu'il y en a qui seront exclus. Donc, rien n'est réellement clair. Donc, aujourd'hui, tout le monde essaie de faire son petit truc pour s'en sortir. Alors, fonctionne pas forcément, mais on peut comprendre que beaucoup à perdre, moi le premier, et que quand vous avez les factures et tout ce qui arrive tous les mois, il faut trouver un moyen de les rembourser, et je sais que tout le monde n'a pas droit aux aides, moi le premier, parce qu'on a ouvert il y a une année, cette année-là, donc il faut avoir pas mal de choses pour rentrer dans les coûts. Au début, c'était beaucoup plus facile de rentrer parmi les gens qui pouvaient avoir des aides. Et au fur et à mesure, ça devient très, très compliqué avec tout ce qui s'est passé à côté, les gens qu'on a profité. Et maintenant, beaucoup vont subir les conséquences.
Mais comment avez-vous apprécié la gestion de ces fêtes-là? Certains dénoncent un certain laxisme de la part des autorités.
Oui, pas plus tard qu'avant-hier, à côté de mon restaurant, dans un parc, il y a eu une vraie fête. Et aujourd'hui, que voulez-vous faire? Parce que il y a tellement de choses qui se passent et le pouvoir public ne peut pas être partout. Donc, quand on voit les choses, comment elles sont maquillées pour passer juste à travers les lignes et dire que oui, c'est toléré, non, c'est pas toléré. Enfin, c'est pas clair pour beaucoup de gens, en fait, les interdits. Donc, on peut aller chercher à être un peu à gauche, à droite, si c'est toléré ou pas toléré, mais c'est pas très clair.
Merci, monsieur Lenné. Je voulais vous donner la parole, docteur Diop, mais je propose, pour ne pas avoir vous interrompre, qu'on le fasse juste après cette courte pause.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Débattons ce soir des critiques concernant la stratégie du gouvernement français pour tenter d'endiguer la crise sanitaire. Et nous sommes avec trois invités. Rudy Lenné, cofondateur de la New Soul Food, premier food truck et maquis afro-européen ici en France. Abel Mbouyi, président de la plateforme citoyenne Force Républicaine, la plateforme de réflexion et action citoyenne. Et docteur Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste. Alors, monsieur Diop, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'est pas bon d'être à la place des hommes politiques en ce moment. Il n'y a pas de solution passe-partout pour avoir une meilleure, pour mieux gérer cette crise. Mais tout à l'heure, on parlait des masques. On a évoqué le cas des restaurants et fêtes clandestines. On a parlé aussi des vaccins très brièvement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que pour ce qui est des respirateurs, il n'y a plus de problème sur cet aspect ? Dans les hôpitaux?
Oui, alors, juste pour terminer par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est simple, je vais retourner, et je vais dire, vous, qu'est-ce que vous auriez fait? De proposer à chaque personne, là, ou chaque intervenant, de dire, mais en fait, vous, finalement, vous auriez fait quoi avec les connaissances de l'époque? Je ne défends personne sur le plan politique, mais simplement, je prends du recul. Vous savez, là, actuellement, je vous parle de Dakar, je suis plus à Dakar d'ailleurs qu'à Paris, et je suis sur les deux pays, et j'ai toujours une vue mondiale. Et je pense que ça rend humble. On a dit l'Allemagne topissime lors de la première vague. Deuxième vague, catastrophique au départ, puis elle essaye de gérer. Et vous voyez que chaque pays en Europe, je vous dis, la Tchécoslovaquie, c'est une catastrophe. Ils étaient à plus de 2600 morts par million d'habitants quand la France est à 1500. C'est-à-dire que vous voyez qu'en fait, il faut déjà un peu de recul, même si on peut faire les choses mieux, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est très important. Qu'est-ce que chaque citoyen aurait fait? Et est-ce qu'il aurait vraiment fait?
Mais docteur, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les critiques que certains font
une autre chose importante, c'est que la première des choses qui permettrait de gérer, moi j'étais, donc comme je fais des allers-retours tous les mois pour travailler, pour faire les gardes, je me souviens du mois d'octobre dernier, septembre, pardon, et je regardais et je voyais tout le monde aux terrasses de café et dans les cafés. Et je me disais, aïe, 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 chaque personne là qui est en train de se parler à l'intérieur à moins de 50 centimètres, je craignais, j'espère que ça ne va pas faire une nouvelle flambée. Et ça veut dire quoi? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi que chacun se responsabilise. C'est-à-dire que si chacun avait juste maintenu les mesures barrières et mis les masques, à partir du moment où on savait que c'était ça et qu'il fallait le faire, il n'y aurait pas eu de deuxième vague.
Donc mais docteur Diop, c'est le gouvernement, est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui donne le cap?
Ah ben il l'avait fait. Les mesures barrières, ça a toujours été dit dans tous les pays du monde, respecter les mesures barrières et il n'y a que ça. Aujourd'hui, la seule efficacité avant qu'on ait les vaccins, c'était les mesures barrières. Donc ça a été dit partout. Ça a été crié.
D'accord. Et revenons sur la question des vaccinateurs, des respirateurs.
Donc, ce que je veux dire, c'est quand même important. Ça veut dire quand même qu'il y a une responsabilité individuelle. Et que celle-là, si on l'a, on l'enlève, on n'y arrivera jamais. Et finalement, c'est vrai qu'en plus, il faut tenir sur la longueur. Ce virus est extrêmement usant. On arrive difficilement à tenir sur la longueur. Tout le monde, la population comme les soignants. Et du coup, j'en viens d'ailleurs aux respirateurs. Très honnêtement, il n'y a pas eu, quand vous dites la crise des respirateurs, vous m'en auriez parlé dans beaucoup de pays en développement, j'aurais dit oui. Vous m'en parlez en Inde aujourd'hui, je vous dis oui. Mais très honnêtement, en France comme en Europe, on n'a pas été à la crise des respirateurs. On craignait de l'avoir. Mais il a fallu déplacer des gens de tel hôpital à tel hôpital dans la même région, ou de telle région à telle autre région. Ça a été ça. Mais en aucun cas, il y a eu, finalement, réellement, de vraies crises. Si merci. On était encore monté, on l'aurait eu. Mais on ne l'a pas eu, en fait, finalement, cette crise. Mais on était à la limite.
D'accord. Monsieur Mbouyi, est-ce que vous vous dites, néanmoins, malgré les explications d'un médecin que nous avons ici sur la difficile c'est-à-dire que les difficultés que cette pandémie a posées aux politiciens. Est-ce que vous dites quand même qu'au niveau de la stratégie gouvernementale, on aurait pu faire autrement sur certaines mesures?
C'est toujours difficile, on aurait toujours pu faire autrement. L'autre chose qui a fait débat, c'est qu'on a vu que le gouvernement a fait le choix de vouloir sauver premièrement nos anciens par rapport à la jeunesse et à la population qui travaille, donc les corps qui véhiculent le virus. La priorité a été donnée aux EHPAD, aux maisons de retraite ou autres. Donc on voit aussi que cela fait débat. Et cela fait débat aussi même parmi les médecins. Donc la problématique en fait de la stratégie gouvernementale, en réalité, c'est que le gouvernement n'a pas réussi en fait à unir en fait le corps médical, je parle vraiment de la situation française et vraiment de l'impression que l'on a, n'a pas réussi à unir le corps médical dans un consensus qui fait que et la parole politique et la parole médicale puissent être en accord. Il faut vraiment réaliser à quel point c'est difficile pour une grande partie de la population, de voir le politique dire une chose sur la stratégie et le voir le soir même être contredit sur les plateaux de chaîne info par des professeurs vraiment très renommés. Moi, je pense qu'il aurait fallu ouvrir la vaccination au plus grand nombre, mais la réalité aussi que le politique ne dit pas, c'est qu'on n'était pas en capacité de le faire, puisque la France aujourd'hui ne produit pas ses propres vaccins, est dépendante des commandes qui sont passées par l'Union européenne et commandes qui, pour certaines, peuvent connaître des retards. Donc, en réalité, la France n'a pas les mains libres par rapport à cette situation.
Rassurez-vous, M. Boyer, on va parler des vaccins dans un instant. Encore un mot sur encore l'une des mesures qui a été très critiquée aussi par certains, c'est ce confinement que certains ont estimé qu'à un moment donné, il n'était pas si strict que ça, que cela, et même les voyageurs arrivant des zones très à risque n'étaient pas vraiment surveillés et le gouvernement a préféré faire confiance en leur bonne foi pour respecter la quarantaine.
Oui, bien entendu, mais déjà par rapport au confinement que l'on connaît actuellement et même celui d'avant, ben il suffit de sortir, il suffit de voir que c'est pas comme le premier d'il y a un an. Donc, bien entendu, le gouvernement veut faire confiance, mais on voit comment les gens sont dehors. Vous allez dans certains quartiers, les gens ne portent pas le masque. Vous voyez que dans beaucoup de territoires, il y a très peu de contrôle en réalité. Et même pour revenir à ce que vous disiez sur les déplacements interpays, bah, effectivement, pendant longtemps, vous pouviez aller en boîte de nuit à Dubaï et lorsque vous rentiez en France, vous n'étiez pas contrôlé. Et certains même pouvaient s'étonner que lorsque j'ai des amis qui ont pu aller à Dakar et être contrôlés dans la mesure la plus stricte qui soit et voir que ce n'était pas pareil lorsque ces personnes revenaient en France. Merci. Donc effectivement, la responsabilisation, c'est bien, mais je pense qu'il y a eu pas mal de failles aussi.
Merci beaucoup. Monsieur Lenné, vous aussi, vous pensez que le confinement pose problème, la façon dont il est mis en œuvre ?
Je n'ai pas entendu, excusez-moi.
Oui, je parlais du confinement qui, pour certains aussi, n'est pas suffisamment sévère pour donner les résultats escomptés. C'est aussi votre impression ?
Ben, moi, j'ai toujours dit, hein, j'aurais aimé un confinement beaucoup plus dur dès le départ, comme ce qu'on a fait, pour éviter que ça traîne en longueur. Parce que nous, en tout cas, dans notre métier, c'est du pareil au même, et du coup, on en pâtit beaucoup plus et on se dit c'est interminable, alors que c'est de fermer les choses, et c'est-à-dire que personne n'est dehors, ça nous permet de dire qu'on ferme pas pour rien, et là je vois des gens qui se promènent à toute heure, qui ont une vie normale, et on se dit mais finalement pourquoi mettre cette notion d'heure qui est froide de 19h et qui entre guillemets ne change pas grand-chose par rapport à avant quand on avait tout fermé, où on avait vu un vrai projet vraiment. Après je peux comprendre au niveau économique, il y a des enjeux qui font qu'on ne peut pas se permettre de tout boucler comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, si on devait penser juste à un résultat, pour moi, c'était d'être beaucoup plus dur.
Merci. Docteur Diop, parlons maintenant de cette stratégie vaccinale du gouvernement. C'est ce sur quoi il mise pour freiner significativement la progression de ce vaccin. Mais beaucoup de Français restent réticents. Et je crois que l'information que je vais peut-être vous donner ne va pas rassurer. Puisqu'on a parlé de deux personnes âgées de 53 et 68 ans qui sont mortes en Guyane, alors qu'elles avaient été vaccinées quelques semaines plus tôt avec deux doses de Pfizer, est-ce que ce ne sont pas des éléments qui risquent encore inquiéter davantage?
Alors, juste une chose très importante. Quand on parle confinement, ouverture, confinement, n'oubliez pas, vous prenez l'exemple d'Israël, ils ont fait quatre confinements quasi complets. Chaque fois qu'on rouvre, quand on fait un confinement total, tant qu'il n'y a pas la vaccination, on reprend une vague. Donc, il faut bien comprendre que ça ne sert à rien de confiner complètement parce que de toute façon, ça reviendra. Ou alors, on le fait, qu'on soit clair, à la chinoise. Ça veut dire que personne ne circule et plus personne ne rentre, sauf isolement complet pendant 15 jours dans un hôtel total. Plus aucune circulation. Donc, où on est dans ce mode-là, ou sinon, ça, le virus continuera à circuler.
Pourquoi la France, pourquoi la France n'a-t-elle pas adopté cette stratégie? C'est aussi un reproche qui a été fait.
Vous avez dit déjà, mais vous imaginez un seul Français qui va accepter ça? Mais je crois qu'il faut se rendre compte de la réalité du terme. Mais c'est la révolution, vous faites ça. Vous avez une révolution dans la rue. Vous ne tenez pas pendant un an.
Mais le premier confinement ressemblait un peu à cela, M. Mbouy l'a rappelé.
Mais non, attendez, comprenez. Ça veut dire que pendant un an, vous allez les maintenir comme ça. Tant que le virus circule dans le reste du monde, vous êtes obligé. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Brésil ou en Inde. Ça veut dire que vous êtes obligé de continuer ce système-là, un isolement complet du pays par rapport au reste du monde. Et donc, oui, on peut le décider. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a complètement fait tomber dans le pays, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'ouvre plus aucune frontière, ou en tout cas, on les ouvre, mais tellement au compte-gouttes qu'on est en isolement. Et donc, on prend cette décision ou pas? C'est une décision qu'on peut prendre politique. Mais imaginez ce que ça veut dire derrière. Ça, c'est une chose.
Merci.
Maintenant, sur la vaccination, il est clair, aujourd'hui, là, je pense qu'il faut arrêter ces discussions qui, pour moi, sont un moment ridicule sur l'histoire de il y a eu deux morts là, trois morts ici, un mort là.
Excusez-moi, docteur Diop, on parle de la mort des personnes qui ont reçu les deux doses de vaccin.
Mais oui, mais regardez le dossier. Il y en a un.
Et qui ont été contaminés du Covid-19.
Oui, mais bien sûr. Mais comment? Il faut comprendre que la vaccination, que vous prenez, le Pfizer évite à 90% de faire la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, dans 10% des cas, vous pouvez faire la maladie. Vous prenez l'AstraZeneca. On est à un petit peu en dessous. On est plutôt aux alentours de 76% de protection. Ça veut dire que 24% pourront faire quand même la maladie. Mais par contre, normalement, ne feront pas la forme grave. Maintenant, vous prenez les cas de la Guyane. Ce sont des cas aussi où il y avait des comorbidités importantes, où il y avait d'autres soucis. Il y en a pour au moins un d'entre eux. Ça veut dire quoi? Le jour où on fera du 100%, on parle de centaines de millions de personnes qui ont été aujourd'hui vaccinées. Je serais d'accord sur une chose, c'est oui, il faut que l'industrie française continue, entre autres dans la recherche à fond et dans les vaccins, d'un point de vue général, en dehors de cette épidémie, et que effectivement de délocaliser certaines choses, c'est un problème. Mais si vous prenez ce qu'ont fait les Anglais, là, c'est à l'AstraZeneca, ils ont vacciné quasiment 30 millions de personnes. Aujourd'hui, ils peuvent libérer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend sur le plan de la masse, vous savez que quand vous prenez la pilule, vous avez une femme à un risque sur 1000 de faire une thrombose. Quand on prend l'AstraZeneca, on a un risque sur 250 000. Il faut à un moment poser les problèmes clairs. La vaccination, plus, mais n'importe quel quasiment vaccin qui passe par là, je le prends. Par contre, pour l'AstraZeneca comme pour le Johnson, si je suis une femme de moins de 30 ans, même s'il y a un peu à la marge, mais une femme de moins de 30 ans, que je fume, que je ne fais pas de sport, que j'ai déjà des problèmes de coagulation éventuellement, et que je prends la pilule, ah oui, je ne prends pas celui-là. Là, on est d'accord. Mais si vous prenez l'ensemble du reste de la population, elle doit se vacciner quand vous voyez que le risque est de 0,1 pour ce qui est de la maladie et de 0,00009 pour ce qui est du vaccin.
Merci.
Selon les pays, 0,00006. À un moment, il faut se rendre compte qu'il y a des débats
plus on les mène, plus on met l'accent sur cette pauvre personne, un de là, deux là, trois là, par rapport à des millions et des millions. C'est pour ça que les Anglais, les anglophones ne se sont pas posé la question.
Ils y sont allés directement. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve pour poursuivre et conclure notre débat sur les critiques concernant la stratégie du gouvernement contre le Covid-19.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Avec nos trois invités ce soir, nous débattons des critiques portant sur certaines mesures du gouvernement français pour tenter d'enrayer la crise sanitaire. Et il s'agit de Rudy Lenné, cofondateur de la New Soul Food ici en France, Abel Mboui, président de la plateforme citoyenne Force Républicaine, la plateforme de réflexion et action citoyenne, et docteur Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste ici à Paris, et il est également président de SOS médecins à Dakar au Sénégal. Je crois que c'est à vous tout, monsieur Abel Mboui. Je souhaitais que vous réagissiez à ce qu'a dit le docteur Diop concernant ces vaccins. Il estime qu'il faut y aller sans réfléchir parce qu'aujourd'hui, c'est l'unique solution et c'est aussi l'unique solution pour le gouvernement français en ce moment.
Que le vaccin soit l'unique solution, le fait qu'il faille continuer de respecter les gestes barrières, je pense que personne n'a dit le contraire, même si vous avez toujours des pros et des anti-vaccins, ça c'est le débat démocratique. Mais en même temps, on ne peut pas dire, en fait les questions que vous soulevez, Liliane, sont très importantes parce qu'on ne peut pas dire à la population, taisez-vous, faites-vous vacciner et demain ça ira mieux. Des erreurs ont déjà été faites. Tout à l'heure, vous parliez de la Guyane, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis mi-avril, la Guyane, la Réunion, Mayotte et la Moselle sont quatre départements dont le vaccin AstraZeneca n'est plus inclus dans la stratégie vaccinale. Aujourd'hui, on sait que la vaccination a été ouverte, par exemple, au personnel scolaire, aux forces de l'ordre, alors qu'ils le demandaient depuis des mois. Il y a eu des clusters dans des écoles. Il y a eu par moment même une communication au sein de l'éducation nationale sur certains territoires qui n'a pas été claire, avec des contaminations qui ont été cachées, des clusters qui ont été cachés pour calmer les chiffres. Et l'autre chose que l'on ne dit pas, permettez-moi de jeter un pavé dans la mare. Et dans l'exemple que je vais donner, il est hors de question de dire que c'est la majorité. C'est ultra minoritaire, mais ça existe. Vous avez beaucoup de témoignages de personnes qui sont allées consulter le médecin de façon classique et qui, pour un rhume ou pour autre chose, le médecin a pu proposer « Est-ce qu'on peut le déclarer en coronavirus comme ça ? Au lieu de 25 euros, je vais toucher 50 euros. » Effectivement, c'est minoritaire. Mais ces quelques cas sont des cas de trop. Donc, avec tout ça, tous ces éléments, la population ne peut pas être là au milieu avec un scotch sur la bouche et avec un nombre de questions quand même très important, parce que la première exposée à cette circulation virale.
Mais en même temps, M. Mboui, vous relevez ce qui, d'après vous, relève sont des manquements. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est la stratégie du gouvernement repose sur le vaccin.
Elle ne repose que sur le vaccin, effectivement. Il me semble que c'est Pfizer, peut-être que je me trompe, qui a émis l'hypothèse d'un traitement pré-vaccinal qui pourrait être mis en place dans les mois, voire courant 2022, dans les mois à venir, voire courant 2022. Mais aujourd'hui, il ne faut pas croire que pour la population, la stratégie vaccinale est si claire que ça.
Merci.
Surtout quand vous avez des scientifiques qui se contredisent matin, midi et soir.
Merci beaucoup. Parlant de contradictions, M. Rudy Lenné, il y a aux États-Unis, ce qu'on appelle la CDC, c'est le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, qui estime que les personnes vaccinées ne sont plus obligées de porter le masque en extérieur, alors que le Haut Conseil de la Santé publique en Europe dit tout à fait le contraire et n'approuve pas cette décision américaine.
Alors là, vous voyez, je trouve ça tellement aberrant d'arriver à des diagnostics tellement opposés. Aujourd'hui, c'est compliqué de se positionner vu qu'on entend tout et son contraire. Donc, moi, en tant que citoyen et en tant qu'entrepreneur, on a toujours envie de préserver la sûreté de ses clients. Donc, on va sur
les mesures qui vont dans ce côté-là, qui pendent dans ce côté-là. Donc forcément, on est très, très embêté aujourd'hui quand on entend des choses qui viennent de gauche, de droite, de différents endroits, et que faire face à ça ? Je ne sais pas quoi dire.
Merci. Docteur Diop, est-ce que ce type d'éléments ne constitue pas un couac, une fois de plus, dans la stratégie du gouvernement, même si ce n'est pas évidemment la faute du gouvernement français ?
Oui, sur ça, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que l'information et la bonne information, c'est-à-dire que moi, quand je fais mes conférences, quand j'essaye je parle à l'intelligence de chacun. C'est-à-dire, mais après, il faut le temps. Quand je veux parler de la Covid complètement, c'est 2 heures. Et je donne les infos, je donne les éléments de jugement qui permet après à chaque personne, même qui n'est pas médecin, qui n'est pas cadre différent, de pouvoir comprendre pourquoi on se pose ces questions-là. Et en fait, le problème, il est plutôt là, dans la bonne communication, où on vit.
Excusez-moi, docteur Diop, j'ai pris un exemple précis où les États-Unis disent, vous vaccinez, vous pouvez aller sans masque à l'extérieur. En France, on dit non, ce n'est pas le cas. Scientifiques qui parlez.
Je vous donne deux choses. Regardez juste ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre et en Israël, et vous comprenez, et bientôt, qui est en train de se passer aux États-Unis, et vous comprenez, pourquoi il faut vacciner. Ça, pour moi, les exemples, on a les exemples dans la vraie vie, là. La vraie, vraie vie. Vous les vaccinez, regardez ce qui se passe derrière. Ça, c'est un. Maintenant, on va voir si avec les variants, on ne va pas avoir quelques problèmes avec un contournement de l'immunité. Ça, c'est un. Maintenant, sur ce que vous me dites, vous savez pourquoi ? C'est que le principe de précaution finit par presque risquer de tuer des personnes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en Europe ? On s'est aperçu qu'on n'a pas encore le recul suffisant. Israël a dit qu'on diminue quasiment de 87% la transmission quand on est vacciné. Donc si c'est ça, on peut ne plus mettre de masque. Mais l'Europe dit, si jamais j'ai un citoyen qui porte plainte contre moi parce que j'ai dit ça et qu'en fait ça n'a pas marché, parce que finalement je me suis infecté, on va me condamner. Donc, du coup, avec ce principe de précaution, on se retrouve à se dire, on ne sait jamais, donc c'est plus simple de dire, ce qui est assez logique, en attendant qu'on sache est-ce que oui ou non les masques suffisent et les mesures barrières suffisent, en attendant, on recommande les mesures barrières, on recommande les masques, et on verra bien si finalement, avec les pays qui ont fait tomber le masque, est-ce que ça marche.
Merci.
Voilà, le raisonnement est très simple.
Donc, vacciner, porter le masque par précaution.
En attendant de savoir si ça suffit ou pas.
Merci.
Et en attendant que l'ensemble du monde soit vacciné pour arriver à faire tomber enfin. Et sur la jeunesse, le fait de vacciner les jeunes. Et là, il y a une vraie discussion, et ça, je suis complètement d'accord. Mais le problème, c'est que si on laisse circuler le virus parmi les personnes âgées, vous saturez tellement le système de santé que finalement, même le jeune qui viendra pour un accident de la route ou autre ne pourra pas être soigné parce qu'il n'y aura plus de place pour lui. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe comme problème. Mais vous prenez l'exemple de l'Indonésie, ils ont choisi de vacciner les 20-59 ans. Oui, c'est très intéressant. Ils n'ont dit pas les anciens.
Merci.
On vaccine les gens qui circulent. Donc vous voyez que c'est...
En tout cas, le gouvernement reste dans sa stratégie. Hein. Pas de vaccin ouvert à tout le monde. Il va être réservé pour les tranches d'âge concernées pour le moment. Alors, en un mot, Abel Mboyi, est-ce que malgré tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui sur ce plateau, vous restez confiant, vous avez toujours confiance aux mesures du gouvernement ?
Moi, je ne dirais pas que j'ai confiance, mais je suis obligé d'en tenir compte parce que c'est eux qui sont aux manettes. Pour moi, il n'y a pas de stratégie claire. Quand on sait que l'objectif est d'ouvrir la vaccination au moins de 50 ans, mi-juin seulement, moi qui ai moins de 40 ans, je ne sais pas quand est-ce que je vais finir par être concerné. Donc pour moi, il n'y a pas de stratégie, il y a de l'improvisation au jour le jour. Mais malheureusement, on n'a pas le choix, on est obligé de subir encore les méandres de la vie politique.
Monsieur Lenné, le gouvernement envisage justement d'alléger les mesures. Vous pensez que c'est réaliste, il faut y aller malgré tout, malgré ces pannes observées dans la stratégie et surtout dans la stratégie vaccinale ?
Je pense que déjà, il faut donner un peu d'espoir. Donc s'ils ne le font pas, les gens le feront eux-mêmes d'une certaine manière. Là, l'été arrive, les vacances arrivent. Donc sincèrement, c'est pas eux qui le font. Je ne vois pas comment les choses pourront avancer dans ce sens-là. Maintenant, je pense que là où ça va être compliqué, c'est de savoir où mettre les limites pour que ça soit bien vu et bien pris et que les gens arrivent à prendre les nouvelles mesures.
Merci beaucoup. Docteur Diop, en mot de conclusion, il faut aller vers l'allègement?
Oui, de toute façon, je pense qu'il faut humainement, psychologiquement, de toute façon, il faut évoluer vers l'allègement. Mais si le vaccin était disponible, n'oubliez pas que le Pfizer, en janvier, les gens disaient « mais moi, je ne vais jamais me vacciner avec ça parce que ça rentre dans mon ADN ». Donc vous voyez encore une fois que, alors ce qui est complètement faux, mais vous voyez encore une fois que c'est complexe. Et maintenant, merci, tout le monde veut le Pfizer.
Merci.
Donc, il faut vacciner, oui, et il faut essayer de libérer actuellement, fonction au fur et à mesure, et si les vaccins sont disponibles, le faire autant que possible.
Merci beaucoup, docteur Massamba Sassoum Diop. Merci d'avoir suivi. Bonsoir.